La peste. Des siècles après, ce simple mot continue de faire peur. Il est associé dans notre imaginaire à ce que le Moyen-Âge a eu de plus noir. C'est au milieu du XIVe siècle, en 1348 exactement, que la peste bubonique fait son apparition en Europe. Elle y reviendra ensuite par vagues, jusque dans les années 1660. Alors, j'ai l'air d'en parler tranquillement, mais en vérité, cette peste, c'est la mort en personne, avec sa grande faux. Les ravages du mal sont alors si terribles que l'on évite en général de prononcer jusqu'à son nom et qu'elle est assimilée à une punition divine. Vous vous rappelez les vers de La Fontaine ? Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Eh bien voilà qu'en plein XVIIIe siècle, dans le très riche royaume de France, à l'époque insouciante et légère de la Régence, la peste, dont on avait fini depuis 50 ans par oublier jusqu'à l'existence, la peste fait un retour en force. Oh, dans un premier temps, elle est entrée sur la pointe des pieds, personne ne l'a seulement vue venir. Le 20 juin 1720, c'est précis, dans la ténébreuse rue Belle-Table à Marseille, la Marie d'Auplan, qui est lavandière de son état, s'effondre. On lui trouve un bubon noir à la commissure des lèvres. C'est une mort curieuse, seulement on ne peut pas imaginer que cette femme soit la première victime de la grande faucheuse. Dans les jours qui suivent, c'est au tour d'un mousse, de deux portefaix, puis d'un commis des infirmeries, d'un couple de tailleurs et de deux filles de la sordide rue de l'Escale. Certains refusent de l'admettre, mais les plus lucides ont déjà compris. Aux abris, la peste est de retour. Question. Comment ce maudit mal a-t-il fait pour revenir en Occident si longtemps après l'avoir quitté? Eh bien, cette question, aujourd'hui, il est possible d'y répondre précisément. Sachez que le 25 mai de cette année 1720, le navire de commerce baptisé Grand Saint-Antoine s'est présenté à Marseille en provenance des échelles du Levant, comme on disait à l'époque, pour désigner le Proche-Orient. Ces échelles du Levant sont une région où la peste est alors endémique. Je ne vais pas vous retracer tout le voyage du navire, mais il faut quand même savoir que ce Grand Saint-Antoine, commandé par Jean-Baptiste Château, a essuyé en février une tempête au large des côtes syriennes et qu'il a fallu refaire sa voilure et ses cordages. On a chargé à bord à ce moment-là des cordes qui provenaient d'un vaisseau anglais dont l'équipage avait péri de la peste. Le 5 avril, à peine 3 jours après son départ du Liban, un passager turc qui avait passé 2 nuits dans les cordages roulés sur le pont, ce passager mourait subitement. Puis c'était au tour de 2 matelots du bord qui s'étaient occupés du cadavre, et puis au tour du médecin. Or, le chargement du navire se composait essentiellement de ballots de soie et de coton, autant dire un paradis pour les puces. Or, les puces sont l'agent contaminant de cette peste. En arrivant à Livourne, en Italie, le capitaine a dû déclarer 6 morts, auxquels sont venus s'en ajouter 3 nouveaux pendant l'escale. C'est pourquoi, au lieu de se voir délivrer une patente dite nette, signe de bonne santé à bord, Château a dû se contenter d'une patente brute qui aurait dû, à son arrivée à Marseille 11 jours plus tard, lui valoir une quarantaine stricte et la mise de sa cargaison au petit enclos, c'est-à-dire dans un endroit volontairement situé loin de la ville. Car depuis Colbert, les mesures sanitaires font la fierté du port de Marseille. Seulement, avec le temps, la discipline s'est un peu relâchée, les officiers de santé s'entendent bien et même trop bien avec les hommes d'affaires pour ne pas se montrer laxistes. En l'occurrence, on renvoie le bateau à l'île de la Jarre, seulement il est vide, ou presque. Ce qu'il y avait de précieux dans sa cargaison a été déchargé au grand enclos, c'est-à-dire dans des magasins d'où l'on pourra tout envoyer à temps à la foire de Beaucaire. Quant à l'équipage, il est reclus, c'est vrai, quelques jours au lazaret, mais sans véritable isolement, et c'est comme ça notamment que du linge infesté de puces, s'est retrouvé dans les bas-quartiers de Marseille. Or, il est certain que la saleté qui règne dans ces rues tortueuses et malsaines, bordées de maisons souvent insalubres, cette saleté favorise la prolifération des petites bêtes mortelles, ces puces dont la piqûre infecte le sang et conduit en quelques jours à la septicémie. Les cadavres qu'on retrouve vont tous présenter les mêmes symptômes, des bubons aux lèvres, au cou, aux aisselles, à l'aine, la langue qui devient sèche et noire, les yeux qui brillent et qui se mettent à ressortir. Pour les plus fortunés, l'heure est venue de fuir la cité et de s'installer à la campagne. D'autres, et c'est le cas des riches chanoines de Saint-Victor par exemple, se barricaderont dans leur monastère et refuseront toute espèce de contact avec l'extérieur. Ceux-là seront sauvés. Pour les autres, le cauchemar peut commencer. Évidemment, dans un premier temps, c'est la loi du silence qui s'étend sur la cité phocéenne. Il y a tant d'intérêts en jeu. Je vous ai dit tout à l'heure que le grand saint Antoine, au moment de sa mise en quarantaine, avait bénéficié d'un laxisme inconcevable de la part des autorités locales. Eh bien, ce laxisme, il vous paraîtra moins inconcevable quand vous saurez que le propriétaire de la cargaison, cet homme si pressé de vendre sa belle marchandise à Beaucaire, cet homme n'est autre que le premier échevin en personne, autant dire le maire de la ville, Jean-Baptiste Estelle. S'il y avait un vrai reproche à lui faire, ainsi qu'à tout le corps municipal du reste, ce serait d'avoir sciemment cherché à camoufler la vérité. Car c'est bien une entreprise de désinformation que mettent sur pied pendant tout le mois de juillet les autorités marseillaises. Le 15, une circulaire est envoyée à tous les ports d'Europe. Et que dit-elle cette circulaire ? La santé est bonne en cette ville, mais il y a la contagion dans nos infirmeries, lesquelles sont séparées de la ville et avec lesquelles la ville n'a aucune communication. On peut tout de même pas mentir avec plus d'aplomb. Or, à l'époque, l'épidémie fait déjà plusieurs morts par jour. Le 23 juillet, on en relève par exemple 14 qui sont recouverts de chaux vives et leurs maisons sont murées, évidemment. Aussitôt, parmi les gens un peu renseignés, c'est le sauve qui peut. On quitte la ville avec femmes et enfants en emportant des affaires et du linge qui bien souvent contient des puces. C'est comme ça qu'on propage une épidémie. Dehors, on commence à réagir. On ne sait pas encore très bien si c'est de la peste que meurent tous ces Marseillais, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas pressé de partager leur sort, qu'ils restent chez eux avec leur maladie. Le 31 juillet, la plus haute cour régionale, le Parlement d'Aix-en-Provence, rend un arrêt interdisant aux Marseillais de quitter l'enceinte de la ville. Et c'est une interdiction sous peine de mort. Je vous laisse imaginer la réaction des Marseillais. Cette fois, les voilà coupés du monde. Aussitôt, l'économie locale est en état de siège, les prix des denrées s'emballent, les fabriques ferment dans la foulée et on va bientôt voir le chômage, la misère, la disette la plus noire accompagner l'épidémie et même lui préparer le terrain. Les Marseillais sont atterrés, ils ne voient de recours possible que dans la prière. Leur évêque, Monseigneur de Belzunce, a convié les prêtres de toutes les paroisses à dire chaque jour une messe pour Saint-Roch, qui est le protecteur des pestiférés. Bientôt, quand arrive le soir, on ne compte plus les morts par dizaines, mais par centaines, 300, 400, 500 par jour. La grande chaleur du mois d'août aidant, les puces prolifèrent dans la cité, échappées à leurs morsures relèvent plus ou moins du miracle. De toute façon, personne ne sait comment la maladie se transmet, et les conseils des médecins sont pour le moins fantaisistes. On recommande le port de toutes sortes de masques et de linges humectés pour échapper aux miasmes, dit-on, alors qu'en fait la peste ne se transmet pas du tout par voie aérienne. Certains préconisent l'emploi de parfums et d'onguents, d'autres prescrivent l'usage du tabac. L'exemple le plus dérisoire de cette ignorance quant aux mesures à prendre, c'est l'initiative municipale de faire allumer chaque soir, à 9h, de grands feux de bois, de soufre et de fagots sur les remparts et aux différents carrefours. L'idée des médecins qui ont recommandé cette mesure, c'était d'assainir l'atmosphère, moyennant quoi ces brasiers formidables ne font que dépouiller la ville de ses réserves de bois et rendre problématiques des nécessités aussi vitales que la cuisson du pain, par exemple. Autre souci majeur pour les autorités, ce sont les corps qui s'accumulent sans qu'il soit désormais possible de leur donner une sépulture. Les corbeaux, c'est le nom qu'on donne à l'époque aux croque-morts, les corbeaux ne peuvent plus fournir à la tâche et l'on voit se créer de véritables tas de cadavres le long des rues, au coin des places. Ils vont rester là comme ça des journées entières à pourrir au soleil, dans une atmosphère de puanteur intolérable et qui imprègne tout. Pour les survivants, chaque heure apporte son lot de misère. La ville entière a basculé dans l'horreur. Dehors, la liberté, la santé, la vie. Dedans, l'enfer, quotidien, sans perspective, et dont la seule issue paraît être la mort. La plupart des gens sont pire qu'abattus, ils se déplacent eux-mêmes comme des morts vivants. Dans ce climat de détresse, les scènes abominables sont devenues banales. On verra des voleurs dépouiller impunément les défunts jusqu'à ce qu'eux-mêmes périssent, victimes de leur avidité. On verra des parents terrorisés jeter à la rue leurs propres enfants contaminés et observer leur agonie par la fenêtre, rongée de peine et de remords. L'une des angoisses pour tous ces gens, c'est de partir dans l'autre monde sans avoir pu recevoir les secours de la religion, autrement dit l'extrême onction. Pour le clergé, c'est un défi de tous les jours. Alors Monseigneur de Belzunce va montrer l'exemple. Il passe son temps hors de l'évêché à la recherche de mourants en quête d'un ultime réconfort. Le prélat ne se soucie pas du tout de l'importance du fidèle ou de son appartenance sociale. Tous ceux qui admirent son dévouement précisent qu'il exerce son ministère autant et même davantage au fond des gourbis que dans les hôtels particuliers. Alors il y a un autre personnage, un phénomène également, qui va traverser miraculeusement l'épidémie tout en s'exposant en permanence au danger, c'est le chevalier de Rose, un vétéran de la récente guerre de succession d'Espagne et qui s'est porté volontaire pour assainir le secteur de Rive-Neuve. À ses propres frais, Rose a mis sur pied une clinique sous les voûtes d'une corderie et il recueille là les pestiférés chassés ou en fuite chez eux. Quand on atteint le chiffre de 700 morts par jour, les corbeaux survivants étant complètement débordés, il va enrôler des paysans pour creuser de grandes fosses et des mendiants, des enfants des orphelinats, toutes sortes de main-d'œuvre subalternes pour tenter de déblayer les corps. La mortalité des croque-morts est terrible. Les échevins ont l'idée de demander des galériens pour ce travail. Et à ce moment-là, sous la conduite des officiers municipaux, on va charger de grands tombereaux à ras-bord, évidemment sous la charge certains se renversent avant d'atteindre les fosses. Pour les nouveaux corbeaux ainsi recrutés, l'espérance de vie est très faible. Par exemple, le 20 août, les galères envoient 26 invalides pour procéder à ces opérations. Tous sont atteints dès le 23. Aucun n'est encore en vie le 26. Et ce n'est qu'un début. C'est bien simple, en tout, près de 400 forçats vont contracter le mal en déblayant des corps. Le 15 août, la délégation de médecins et de chirurgiens envoyée de Paris par le régent Philippe d'Orléans a enfin rendu un diagnostic indiscutable. Il s'agit bel et bien de la peste, merci. Inutile d'essayer de prétendre le contraire. Cela dit, ce verdict ne s'accompagne d'aucune prescription. Je vous le dis, personne à l'époque ne connaît la vraie nature du mal. Et l'on s'en tient à des conseils de bon sens, conseils cruellement insuffisants. Alors, puisque la médecine est muette, c'est à l'administration à parler. Les autorités ont entrepris de réinstaller de force, sous peine de mort, les commerçants qui avaient fui la ville. Elles réclament que l'armée vienne mettre de l'ordre dans les rues et rétablisse une certaine police. Il n'en reste pas moins que le chiffre quotidien des morts continue de grimper. On en est à plus de 1000 par jour au début de septembre. Et l'on peut dire sans exagérer que Marseille asphyxie maintenant sous des monceaux de cadavres. Les tas que l'on forme au coin des rues, en plus de la puanteur qu'il dégage, forme un spectacle d'apocalypse. Sous l'effet de l'effondrement et des fermentations, ces piles de dépouilles se mettent à remuer toutes seules. Même les pires descriptions de l'enfer n'avaient pas imaginé de telles choses. À la mi-septembre, la peste a dévoré près de la moitié de la population marseillaise. 40 000 habitants sont morts, chiffre inouï quand on y songe. Et encore, je ne parle ici que de Marseille, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à la faveur du sauve-qui-peut des premières semaines, certains fugitifs ont contaminé les régions alentours. La Provence entière est atteinte, mais aussi le comtat venaissin, la principauté d'Orange. On va trouver des pestiférés jusqu'en Languedoc. Alors, on parle de la grande peste de Marseille, mais il serait plus juste de parler de la grande peste de Provence, ou même de la grande peste du Midi. Toulon, Arles, Aix, bien d'autres encore sont cruellement touchés. Sur les ordres du Parlement de Provence, un cordon sanitaire réputé infranchissable a été établi. C'est brutal, ça, c'est même inhumain. Seulement, ça va se révéler salutaire pour tout le reste du pays. C'est grâce à cette mesure, avant tout, que la peste a pu être circonscrite et que l'épidémie ne s'est pas transformée en une pandémie incurable comme celle qui affecte alors la plus grosse partie du Moyen-Orient. Mais revenons à Marseille où la désolation est complète. Grâce à l'audace de volontaires comme le chevalier de Rose, grâce au dévouement d'hommes d'église comme l'évêque de Belzunce, la ville n'a pas dit tout à fait son dernier mot. Le plus important des monceaux de cadavres se trouve sur la place de la Tourette. Il compte plus de 2000 corps. Rose se fait fort de nettoyer l'endroit, même s'il doit payer de sa personne pour montrer l'exemple. Il a eu l'idée de faire jeter les cadavres dans de vieux bastions voisins qui datent de Jules César. Alors on met à sa disposition une centaine de galériens qui, en une journée, viennent à bout de cette affreuse corvée. Quelques jours plus tard, 5 seulement auront survécu, avec le bouillon rose qui décidément doit avoir le sang trop fort au goût des puces. Ceux qui n'ont pas encore été atteints assiste dans la chapelle de l'hôtel de ville à un office hallucinant, véritable cérémonie d'exorcisme où Belzunce en sanglots implore la miséricorde du Dieu terrible, dit-il, le Dieu de justice qui châtie. Ça peut nous paraître curieux, mais pour les contemporains, il n'y a aucun doute possible sur la cause principale du désastre. Tous y voient sans discuter la main de la Providence venue punir Marseille pour ses abus et ses débauches passées. Et d'ailleurs, si l'on prend un peu de hauteur, il est certain que, d'une certaine manière, cette ville, en laissant se dégrader l'hygiène des pauvres et la moralité des riches, a bel et bien fait son malheur. Quant au responsable immédiat, le commandant du Grand Saint-Antoine, Château, il est jugé et blanchi. Une procédure impartiale a conclu qu'il n'avait pas commis de fausses déclarations, et c'est vrai que sa faute aura plutôt été de céder aux exigences et à l'impatience de l'armateur, Estelle. En signe d'expiation autant que par mesure d'hygiène, le 26 septembre, le navire lui-même est incendié à l'île de Jarre. Il se consume lentement et finit par sombrer. Eh bien, justement, hasard ou fatalité, c'est le moment que choisit la peste pour refluer. Vous connaissez sans doute cette particularité, en quelque sorte mathématique, des épidémies qui sont comme le lait sur le feu et qui retombent presque aussi vite qu'elles étaient montées. En octobre, le recul de la peste est constaté dans Marseille, ce qui ne veut pas dire que la cité soit considérée comme sauvée. Le jour de la Toussaint, Monseigneur de Belzunce se rend, la corde au cou et pieds nus, ce qui est très imprudent, jusqu'à un hôtel placé au centre des cours, où il célèbre la messe pour le temps de peste avant de consacrer la ville entière au Sacré-Cœur de Jésus. Tous les canons de la ville et les cloches des églises et les tambours des troupes se mettent à résonner jusqu'au ciel. Ils font entendre le cri d'espoir de Marseille qui veut vivre. Au tournant de la nouvelle année, les tombereaux vont disparaître et l'on en revient au bon vieux Corbillard. L'épidémie est officiellement déclarée vaincue. Et deux jours chômés viennent fêter la délivrance. Il faudra encore attendre deux longues quarantaines avant que le Parlement n'entérine le retour à la normale. L'acte déclaratif de santé ne sera émis que le 9 novembre 1721. Or, 6 mois plus tard, en mai 1722, de nouveaux cas se déclarent dans le vieux Marseille. Or là, au sein de la population, c'est la panique. Seulement cette fois, des mesures draconiennes sont prises à temps. Tous les habitants du quartier sont isolés au lazaret. Les maisons sont passées à la chaux vive, les rues murées. Des équipes de médecins et des gardes civils sont constituées dans chaque paroisse. Même les bateaux du port sont mis à l'isolement. Et comme ça, en moins de 100 jours, la rechute est enrayée. Elle n'aura pas fait plus de 200 morts. Tout le monde s'est mobilisé cette fois, en ordre, rapidement, la leçon a été bien apprise. Ainsi va disparaître la dernière peste d'Occident. La bêtise et l'avidité des hommes l'avaient fait entrer dans Marseille. La force d'âme et la bonne volonté d'autres hommes l'en auront fait ressortir. Même parmi tous ceux qui sont morts, beaucoup s'étaient montrés dignes face au mal aveugle. 2 siècles plus tard, Albert Camus devait transcender cette épreuve dans son roman « La peste » censé se passer à Oran. Laissez-moi juste en extraire une phrase toute simple, mais qui me paraît belle pour une conclusion. « Il y a dans les hommes, écrit Camus, plus de choses à admirer que de choses à mépriser. »